radicaux libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur une... Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pourrez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de consommation, le projet de zone commerciale à Benner, avec un Ikea, un Leclerc et tout ce qui ravit les adorateurs de la consommation, hein, comme un parking de plus de 3000 places. C'est pas le bonheur, ça? Sur plusieurs dizaines d'hectares de terres arables. Eh bien, ça continue d'alimenter les rêves de pognon des organisateurs. Les opposants en sont au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, à propos de la loi sur l'eau, qui ne serait pas respectée par le projet de zone commerciale, qui ne respecte pas grand-chose. Les zones commerciales, ou non, c'est pas le droit le plus respectueux du monde, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rapporteur public préconise le rejet du recours. Bah oui, c'est ce que nous apprend le Maine Libre du 20 mai. Alors que la fin du monde se précipite à grands pas, des lois d'un autre âge basées sur un monde dominé par la quête de revenus à accumuler, hein, ça s'appelle le capitalisme, vont peut-être donner raison à des bétonneurs. Alors que l'agriculture commence à peiner à nourrir tout le monde, même dans des territoires comme le nôtre, où nos agriculteurs se retrouvent dans la situation du paysan sahélien qui prie pour que l'eau arrive, eh bien, il faudrait recouvrir des dizaines d'hectares de terres agricoles pour satisfaire le délire de la société de consommation. Pensez-vous, pas de zone commerciale conséquente à l'est de l'agglomération Mancelle. Il faut pallier ce manque. Voilà ce qui a décidé les aménageurs, nos soi-disant représentants, pour lancer l'idée d'un centre commercial à Benner au début des années 2010. Alors que nous devons sans attendre freiner des quatre fers quant à la dévastation de notre environnement. Tiens, un certain Mohandas Gandhi disait ceci: il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme. Sans doute qu'il parlait des humains, mais pas assez pour assouvir son avidité. On aurait pu vous parler de la gauche au pouvoir. Elisabeth Borne a été nommée première ministre après 3 semaines de tergiversation, alors que dès la fin avril, les médias de cour qui intéressaient leur lectorat et auditoire à cette question fondamentale citaient déjà Elisabeth Borne. Le 27 avril, le vrai banquier et mauvais acteur qui nous sert encore de président de la République est allé se faire voir à Cergy Pontoise, c'était le 27 avril dernier, ce qui a permis aux médias de prouver que Emmanuel Macron est attaché à s'occuper du petit peuple. Bah oui, il était à Cergy. Lors de ce déplacement, il a dressé ce qu'on appelle un portrait robot du chef du gouvernement et qui n'était pas encore nommé. Attention, éloignez les enfants, Macron va parler.
C'est quelqu'un qui est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive.
Ouais, alors bon, bah forcément, c'est du stand-up, hein, alors il improvise un peu. Donc elle coche toutes les cases du portrait, affirment les médias. De gauche, donc, Elisabeth Borne est de gauche. Bien sûr, elle a bossé pour Ségolène Royal du Parti Socialiste. Bah oui, le Parti Socialiste, donc elle est socialiste, donc elle est de gauche. Et voilà, elle est sociale, elle est attachée à la question sociale. Elle a dirigé la RATP. Fermez le banc. Écolo, elle a mangé son chapeau pendant un an au ministère de la Transition écologique et productive. Eh ben, sans doute qu'elle l'est, puisqu'elle a souvent dû plier devant le ministère de l'économie capitaliste, qui se contente du mot économie, de Bruno Le Maire. En tout cas, l'image est belle, hein. La déclaration de Elisabeth Borne à propos des petites filles qui doivent aller jusqu'au bout de leurs rêves lors de son intronisation, aussi. Maintenant, le gouvernement. L'ouverture à gauche, toujours, au ministère de l'Emploi, Olivier Dussopt. Ah ben, il est de gauche, la preuve, il a soutenu Manuel Valls lors de la primaire du Parti Socialiste. En 2016, il a fondé un parti même avec Monsieur Le Drian. En janvier 2020, Territoire de Progrès, c'est un parti politique qui vise à rassembler l'aile gauche de la majorité présidentielle. L'aile gauche d'une majorité qui dépense des milliards pour des cabinets de conseil, qui a créé un plafond pour que les plus riches ne paient pas trop d'impôts. Et ça s'est passé dès le début du quinquennat, oui, été 2017. C'est la même majorité présidentielle qui reprend le vocabulaire de l'extrême droite pour discréditer des adversaires politiques. Et rien que ça, je comprends pas le concept. Une aile gauche pour des gens comme ça? Ouais, dit bizarre. Accessoirement, Monsieur Olivier Dussopt a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt quand il était maire d'Annonay en Ardèche pour une affaire de cadeau donné par un dirigeant de la SOR, une boîte privée qui fait son beurre en fournissant de l'eau. Tiens, au minimum, un maire de gauche aurait peut-être rendu public l'adduction d'eau. Autre symbole d'ouverture, Maître Dupont-Moretti Moretti, qui est encore à la justice. Lui aussi est de gauche. C'est en tout cas comme ça qu'il est présenté. Ah tiens, ben lui aussi est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. La Dream Team, quoi. Ah, au niveau de l'écologie, alors ne cherchez plus, nous sommes sauvés. Hein. Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher sont aux commandes. Amélie de Montchalin a fait une carrière professionnelle dans la banque et l'assurance. Agnès Pannier-Runacher navigue entre public et privé, dans l'industrie automobile et la caisse des dépôts et consignations. Tout est dit, l'affiche est encore belle. Autant de femmes que d'hommes, et des femmes à des postes stratégiques, des figures de gauche, des vessies pour des lanternes. Et pourtant, la plupart des médias parlent de l'action de la première ministre et maintenant de son gouvernement au futur de l'indicatif. Oui, elle sera en charge de... Mais non, elle est en charge de rien du tout, il n'y a pas de majorité parlementaire. Donc elle est en charge de quoi? Elle possède une petite partie du pouvoir exécutif. Donc en gros, bah, elle peut rien faire si une loi n'est pas passée. Mais faudrait peut-être à un moment qu'ils essayent de nous expliquer comment, bon déjà c'est l'arnaque la démocratie représentative, mais au moins s'ils arrêtaient de nous prendre pour des imbéciles dans les médias, ce serait peut-être pas mal. Donc là, bah, son gouvernement et elle-même agissent au futur de l'indicatif, c'est le mode du vrai, hein. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ce qu'un linguiste m'a dit, sans utiliser le conditionnel. Oui, à aucun moment dans les phrases il y a « si bien sûr la majorité reste dans les mains de la Macronie ». Non, à aucun moment, hein. Non, on vous dit « ça va se passer comme ça », comme si les élections législatives n'auraient jamais lieu. Comme si ce n'était pas la peine de se déplacer. Déjà, je le disais, la démocratie représentative, c'est un ersatz de démocratie. Mais non, là, la retraite à 65 ans, c'est déjà un dossier qui va être traité. Hein. Ouais, il est en train. On sait au moins pour qui les médias travaillent. Alors, ceux-là, hein, parce que heureusement que tous ne sont pas dans ce cas-là. Ce gouvernement est là pour faire joli, c'est sûr. Le Parlement ne se réunira plus avant les prochaines élections en juin, donc ce gouvernement ne peut que gérer les affaires courantes. Quant aux têtes de gondole qu'on nous agitera pendant 15 jours sous le nez avant les élections pour montrer que la République En Marche, renommée Renaissance, a changé, bah c'est de la même eau que les jupettes en 95. Elles ont duré 6 mois, les jupettes. Hein. 12 femmes au gouvernement, waouh, c'était 1995. En France, c'était une révolution. Ouais, ben en novembre 1995, il y a eu un nouveau gouvernement. À deviner, il en restait 4. Ou alors l'ouverture de 2007, ah, ça c'était Nicolas Sarkozy. Ouais, il y avait des membres de la gauche socialiste. Ah non, pardon, excusez-moi, du Parti Socialiste. Oui, parce que la gauche socialiste c'était encore autre chose. Ouais, qui avaient viré leur cutie. Ouais, des Besson et compagnie à l'identité nationale. On n'en entend plus parler. Non, bah peut-être que la traîtrise ne paie pas. Ouais, ça sera de l'affichage, encore de l'affichage. Les décisions seront toujours prises en fonction du ministère de l'économie capitaliste qui continue sur sa lancée, lui. Il s'appelle toujours ministère de l'économie. Point. On aurait pu vous parler des nouvelles de la fin du monde. Bah ça y est, la sécheresse est réelle, hein, c'est sûr, ça y est. Oui, le changement climatique est bien réel, oui. Les maraîchers, les céréaliers, les éleveurs le voient depuis quelques années, hein, tout comme nos soi-disant représentants, mais aujourd'hui, le changement climatique est visible par tous. Et pourtant, rien n'y fait. Aucune activité productive de produits intérieurs bruts n'a été stoppée, parce que le système économique capitaliste ne peut pas s'arrêter, sinon il meurt. Et du coup, bah, les capitalistes gagnent plus d'argent. Donc, c'est pas leur intérêt. Vive la fin du monde tant qu'il y a du business à se faire. Il faut toujours produire, encore et toujours produire. La logique du plus, c'est mieux ne peut pas souffrir du moindre moment de répit. Les médias développent notre résilience. Hein. Dans les flash infos et les journaux, on entend, je cite, qu'il va falloir s'habituer. Ah ouais, il va falloir s'habituer aux épisodes de forte chaleur, comme nous en connaissons un actuellement. S'habituer, c'est un autre moyen de nous seriner que rien n'est possible, aucune autre alternative, il n'y a rien. Oui, c'est Tina, there is no alternative. Comme disait une femme, tiens, Margaret Thatcher, libérale s'il en est, que la logique économique d'accumulation de profits doit continuer, il n'y a rien d'autre à faire, alors il va falloir s'habituer. Nos soi-disant représentants débloquent des fonds pour aider les agriculteurs à passer le cap des épisodes climatiques extrêmes. Souvenez-vous, en avril 2022, oui, il y a juste un mois et demi, les médias faisaient leur temps d'antenne sur les gelées nocturnes intenses et les moyens de lutter contre. Des pauvres pis-à-lèvres face à la puissance de l'atmosphère en mouvement. Résultat, des pertes pour les vignes, pour les fruitiers, pour des milliers d'exploitants agricoles. Le 17 mai, cette semaine, on apprend qu'un fonds d'urgence est doté de 20 millions d'euros pour aider les agriculteurs qui n'ont plus rien à nous donner à manger. Des millions d'euros, hein, ça fait pas des pêches ou des cerises, ça. Des millions d'euros, ça remplace pas des raisins. Non, ça se boit pas, ça se mange pas. Des millions d'euros, ça permet de payer l'emprunt, ça permet de payer les factures, l'essence pour les engins, les pesticides pour tuer tout ce qui bouge dans les champs. Ça permet de continuer comme avant, d'arroser la filière. Mais à la base de l'agriculture, c'est de produire de la nourriture. Eh ben là, il n'y en a pas. Ah ben c'est sûr, la filière va continuer à fonctionner, mais c'est pas avec des aides de millions, voire des milliards, voire des dizaines de milliards si tu veux, qu'on va bouffer. Ben sinon, ben il fait chaud, et ben tout devant continuer comme d'habitude, les poussières s'accumulent. En ce moment, il ne fait pas bon respirer dans Poitiers et sa cuvette, comme à Lyon ou à Marseille. Les seuils d'information, voire d'alerte, à la population sont dépassés dans de nombreuses villes également, de l'Est et du Sud du pays, comme à Dijon, à Mulhouse, à Valence ou à Metz. On vous l'avait dit, hein, va falloir s'habituer et développer sa capacité d'adaptation. Ah oui, il faut s'adapter. Aussi. Ah bah alors, pour tous ceux qui ont des poumons fragiles, respirez une fois sur deux, parce que va pas falloir continuer, va pas falloir essayer de compter sur une diminution de la production de poussière. Non, non, la santé économique du pays est à ce prix. Et comme prévu, après l'épisode de chaleur qui dure dans le sud, les arrêtés préfectoraux de limitation de l'utilisation de l'eau pour les activités agricoles, industrielles et privées se sont multipliés. On est passé de 30 à 50, arrêtés de restriction à l'utilisation de l'eau dans une vingtaine de départements au 20 mai, alors qu'il y a 15 jours, c'était 14. Et puis qu'il y a un an, bah, c'était beaucoup, beaucoup moins. Il y a deux ans, encore moins. Des bassins en vigilance sont passés en alerte. Des bassins en alerte sont passés en alerte renforcée et on en trouve même en crise. Il y en a deux, hein, pour l'instant, dans le Loiret et dans les Bouches-du-Rhône. En Sarthe, c'est parti. Depuis le 16 mai, je cite, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golf, restrictions possibles quant au remplissage des piscines, au lavage des voitures, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieures à 50%, mesure d'interdiction de manœuvres de vannes, d'activités nautiques. Consultez l'arrêté préfectoral pour accéder aux détails des mesures. C'est donc sur le site de la préfecture de la Sarthe. Vous pouvez aller voir si cette semaine, il y a un recueil des arrêtés préfectoraux. Oui, oui, c'est pas super sympa à lire, mais ça vous apprendra quand même que ben, dans le bassin affluent de la Sarthe médiane, bassin de Lagny-Veuve-Tusson, bassin de Largance, bassin de la Vège-Taude-Herve, bassin Vive-Parence, tout ça, c'est en alerte. En alerte, ça veut dire, hey, faites pas les cons, les gars, de l'eau, il y en a plus. Mais finalement, on a préféré vous parler de greenwashing. Toute la journée du samedi 14 mai avait lieu un événement de la Chambre des métiers, de l'artisanat et de l'ADEME. C'était à Le Mans, sur la place de la République. Une grosse douzaine de tentes blanches abritant des stands d'entreprises de la réparation étaient présents sur cette place. L'événement visait à présenter les réparacteurs. Ah, vous avez entendu ? Le C, acteur de la réparation, réparacteur. Eh ouais, il y a des sociétés de communication qui se font leur pognon là-dessus. Ceux qui peuvent faire durer vos produits. Contre une facture, bien sûr. Hein. Le texte qui accompagnait l'événement affichait en toutes lettres la volonté de porter, je cite, « les valeurs de la consommation responsable », qui ont toujours été celles de ceux qui organisaient hein, la Chambre des métiers de l'artisanat et de l'ADEME. Les valeurs de la consommation responsable. Mais c'est quoi cette consommation responsable et ces valeurs ? Eh bien, les valeurs, on les retrouve sur les sites gouvernementaux qui, associés à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'environnement, nous donnent des conseils pour consommer. Mais surtout, ben pour consommer. Ah oui, il ne faut surtout pas s'arrêter. Souvenons-nous quand même que la TVA est l'impôt qui génère le plus de revenus pour un État qui est déjà surendetté, et la consommation des ménages est le moteur de l'augmentation du produit intérieur brut. La croissance. Consommer responsable, c'est d'abord respecter et surtout les critères du fameux développement durable. L'oxymore qui accompagne la philosophie libérale économique depuis les années 1990. L'équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental. Ouais, ouais, on l'a vu à l'école, on l'a vu à la télé. Ouais, ah bah oui, développement durable. Eh bah, comme si l'économique était au même niveau dans nos vies, hein, au même niveau d'importance que l'harmonie, tentons le mot, entre les humains et entre bah, les humains et le reste du vivant. En gros, entre le social et l'environnemental, eh ben je ne sais pas trop si véritablement cette harmonie entre les humains, ce qu'on pourrait appeler faire société, et cette harmonie entre les humains et le reste du vivant, ce qu'on pourrait appeler le respect de l'environnement, enfin le respect de la nature, enfin en gros l'écologie, est-ce que c'est vraiment au même niveau que l'économique, c'est-à-dire la production de richesses ? Pour les libéraux, le versant économique est même dominant. C'est pour ça, bah, d'où l'escroquerie permanente du développement durable, qui ne sert qu'à continuer comme avant, en saupoudrant la recherche de profit d'un petit vernis de responsabilité. L'événement de samedi, place de la REP, n'avait pas d'autre ambition que de nous faire connaître les talents des artisans qui peuvent réparer nos produits, dont les fabricants n'améliorent toujours pas la réparabilité justement, et continuent souvent même d'appliquer une obsolescence programmée. L'objet de cet événement et de nous inciter à toujours consommer, sous couvert de le faire de manière plus responsable. Pas du tout de nous rendre plus autonomes, en nous apprenant par exemple à réparer nous-mêmes, ou nous rendre moins dépendants, en nous incitant par exemple à ne pas acheter ce couteau électrique ou cet aspirateur de table, pour parler des pires délires de la société de consommation des années 70-80. Ce vernis de la responsabilité associé à des gestes écologiques, eh ouais, c'est marqué comme ça, recommandé par l'ADEME, s'appelle en fait le greenwashing. On met un petit peu de vert en surface pour qu'au fond, rien ne change. Le greenwashing est omniprésent en ce moment. Par exemple, dans une campagne d'affichage récente, Danone fait sa pub indiquant que le lait utilisé dans ses yaourts est collecté à moins de 60 km de l'endroit où il sera transformé. Eh ben alors lâchons-nous, achetons-les par paquet de 16, rien sur les autres ingrédients, non non, rien sur le pot et sa consommation, rien sur le transport des produits finis dans toute la France et même à l'étranger puisque Danone exporte. L'écume des choses est le propre du greenwashing. Une matière première sur l'ensemble va être mise en avant, une étape de fabrication sur l'ensemble va être détaillée pour vous dire « regardez comment on est vertueux ». Un élément sur l'ensemble est mis en avant comme étant respectueux, responsable, etc. Et pour le reste, on ne change rien. Mais le consommateur se sent moins mal. La déculpabilisation. Ça marche aussi avec des chaussures dont le coton est bio, des pergolas dont le bois est sourcé, etc., etc. Même dans le carburant des voitures de course, on trouve du greenwashing. À Spa-Francorchamps, c'est en Belgique et c'était à la fin du mois d'avril. Le nouveau carburant 100% renouvelable est utilisé. Je vais citer Pierre Fillon, le frère de l'autre, qui est président de l'ACO, qui organise aussi les 24 heures, mais aussi d'autres courses, hein, où... par exemple, il y avait ça la semaine dernière. Oh, je le retrouve. Non, je le retrouve pas. Si, je le retrouve. Mais qu'est-ce qui concurrence les oiseaux ? On pourrait se dire, eh ben, ce sont les motos sur le circuit des 24 heures, enfin le circuit, puisqu'il y avait le Grand Prix moto. Devinez où on est ? On est au Jardin des Plantes. Dimanche, il est 10h30. Le dimanche 15 mai, 10h30, on entendait ça. Alors ouais, le vent était du sud, mais imaginez les gens qui habitent à côté. Ouais, mais on s'en fout, l'important c'est quand même qu'il y ait 110 000 spectateurs. L'important c'est qu'on ait fait un maximum de pognon. L'important c'est qu'en plus, il y avait de la visibilité pour Le Mans. Alors, eh bien le frère de l'autre, président de la CO qui organise ce genre de truc, nous dit... L'endurance embarque vers une nouvelle ère. Avec Total Energy, partenaire de longue date de la CO, nous passons un cap dans notre engagement commun de réduire notre impact environnemental. Notre premier objectif consiste à réduire nos émissions de carbone. Et pour y parvenir, nous avons besoin de la contribution de tous. Nous sommes fiers d'affermir notre ambition de faire des 24 heures du Mans un terrain d'expérimentation des technologies de la mobilité. Et là, il parle de quoi ? Eh bien, il parle du carburant, le nouveau, un carburant qui est 100% renouvelable. Il est fait à partir de déchets de vinification. C'est trop super, mais là encore, on a un produit, le carburant. Pour le reste, la parade et les cadeaux qui vont être balancés par terre, pour le déplacement des équipes, pour l'extraction des matières premières qui a permis de fabriquer tout ce que l'on nous propose là comme étant vraiment le maximum de ce qu'on devrait essayer d'avoir quand on est un homme ou une femme, hein, mais plutôt un homme quand même qui veut se prendre pour tout pilote des 24 heures, eh bien rien. En tout cas, rien de médiatisé, ce qui revient au même dans ce genre d'activité. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite avancée, un tout petit coup de vernis vert qu'on pourrait mettre, ah bah là, on entend la publicité. Ouais, parce que le carburant en question, là, il est qualifié de bio. Ah, il n'y a pas de souci. Et toujours des valeurs bien mortifères. Parce que l'ACO, il peut associer le carburant qu'il veut à ces courses, on apprend quand même dans le Main Libre cette semaine, remportez votre pack privilège pour les 24 heures du Mans 2022. Alors, du mercredi 8 juin, 9h, au dimanche 12 juin, 18h, au circuit des 24 heures, amoureux de la vitesse, point d'interrogation, le Main Libre vous offre un pack privilège comprenant deux places, semaine, course, l'accès au paddock, une place de parking, deux places pour le musée des 24 heures, un hors-série 24 heures du Mans, deux places VIP pour la parade des pilotes le 10 juin, donc un accès à la tribune et au cocktail, deux posters collector 24 heures du Mans. Un concentré Là, on a un concentré de tout ce qui détruit notre environnement. De la vitesse, de la technologie au service de la puissance, de la hiérarchie, bah ouais, vous allez être VIP, de l'apparence. Mais par contre, le carburant est 100% renouvelable. Le greenwashing se niche un petit peu partout. Et par exemple, dans les programmes de la télé d'État, dans la météo de Télématin, par exemple sur France 2, toutes les demi-heures, on a pu entendre ça.
Un lavage auto plus responsable, des produits biodégradables et une consommation d'eau maîtrisée. Vous regardez la météo avec Wash de Total Energy, le premier réseau de lavage en France.
Alors, en plus, là, c'est la publicité, mais juste après, on a une présentatrice qui nous dit « Oh, mais c'est fantastique d'avoir l'été avec 2 mois d'avance !» Ah, on sent bien la déconnexion avec les enjeux réels du dérèglement climatique. Mais il faut pas désespérer le consommateur. Surtout le matin. Bah oui, il faut qu'il reste sur la chaîne pour gober sa dose de pub. Et puis ensuite, qu'il puisse aller, content ou presque, s'entasser dans les transports en commun ou les bouchons, ou les deux, pour se rendre sur son lieu d'exploitation. Alors la présentatrice, elle nous sourit, elle nous sert du « c'est fantastique !» Bon, à propos des températures, elle dit « ah bah c'est un petit peu beaucoup hein. !» Ouais. Plus 10 degrés par rapport au normal de saison. C'est juste un peu beaucoup. Mais vous avez entendu, dans la publicité, on avait ça.
Un lavage auto plus responsable, des produits biodégradables et une consommation d'eau maîtrisée. Vous regardez la météo avec Wash de Total Energy, le premier réseau de lavage en France.
C'est plus responsable, c'est biodégradable, c'est maîtrisé. Tout ça est sans doute vrai, mais déjà on peut se poser la question sur le simple fait de laver sa bagnole. À quelle fréquence? Pourquoi? Pour qui? Briller sur le parking de la boîte dans son signe extérieur de richesse? Est-ce que c'est important? Alors plus responsable, par rapport à quand? Par rapport à quoi? Le plus, il veut dire quoi? Biodégradable, dans quelle mesure? À 100% ou juste dans la limite des obligations légales? Auquel cas, tu respectes juste les obligations légales, mon gars. Maîtrisé, parce que les robinets ne coulent pas ou parce qu'on est limité à quelques dizaines de litres? On n'en sait rien. Autant d'affirmations qui ne disent rien de la réalité de la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques lors de votre passage dans les stations de lavage. Mais à coup sûr, une déculpabilisation pour le Pékin moyen qui utilise ce service. D'accord, il cède aux diktats de l'apparence. D'accord, il gaspille des ressources essentielles à la vie, comme de l'eau et de l'énergie. Mais c'est plus responsable, c'est biodégradable. Et en plus, c'est maîtrisé. L'art du greenwashing n'a qu'un but. Parler de changement pour ne rien changer. Matraquer des efforts qui ne concernent qu'un tout petit bout de la chaîne. Par exemple, la collecte du lait tout à l'heure. Pour que le reste de la filière ne soit pas interrogée. Faire croire à des révolutions quand, dans n'importe quelle entreprise, on met juste un petit coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est tout simplement nous faire de la publicité pour continuer à nous faire consommer et pour nous faire croire qu'on a une attitude écologique. C'est quoi d'ailleurs l'écologie? On se posera la question la prochaine fois. Pour les auditeurs du direct, peut-être qu'à la mairie, il y a un petit peu de monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'appel des déserteurs-déserteuses d'AgroParisTech. On avait diffusé un petit morceau de leur intervention de 7 minutes sur 3 heures et quelques lors de la remise des diplômes, où ils nous appellent à bifurquons. Appel à tous ceux et toutes celles qui sont coincés par des boulots et tous celles et tous ceux qui ont déjà déserté à se rencontrer le samedi 21 mai à midi devant les mairies pour s'aider localement à déserter. Indique la ville où tu seras en commentaire. Écoutez, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, l'idée de bifurquer, elle est plutôt bonne. Allumette, tiens l'allumette, mais qu'est-ce que c'est? On va écouter tout de suite Flav qui nous parle en direct de l'allumette.
Déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous envoyer un mail.
C'était pas celle-là? C'est celle-là.
Effectivement, on en avait déjà parlé. Donc, l'allumette, c'est ce qu'on voudrait être, un centre socio-culturel en autogestion. Donc, c'est un lieu qui pourra accueillir en fait des associations, des collectifs qui seraient en besoin de salles de réunion. Ça peut être un lieu où on mettra en place des actions de solidarité concrètes comme une cantine populaire, comme des ateliers d'aide administrative, des friperies solidaires, etc. Je pense qu'on mettra aussi en place une bibliothèque, des ateliers informatiques. Et puis, le but, c'est que les gens, non seulement bénéficient de cette solidarité, mais aussi à terme puissent s'investir dans le lieu et devenir acteurs aussi de leur acteurs de tout ça, quoi. Puisque l'idée, c'est ça, c'est l'autogestion, en fait. C'est que les gens prennent conscience qu'ils sont capables aussi de décider par eux-mêmes, de prendre des décisions politiques, de réfléchir, d'agir.
Alors là, pour l'instant, c'est gros chantier. Quels sont les besoins ?
Eh ben, les besoins, c'est surtout du monde, en fait. Après, en matériel, on a déjà un peu ce qu'il faut sur place. Si les gens veulent apporter 2-3 outils avec eux, je pense que ça posera pas de soucis. Mais en tout cas, on est déjà bien équipés, donc voilà. Et puis après, de toute façon, on peut venir pour une heure, pour filer un coup de main, juste pour discuter. On n'a pas besoin spécialement d'avoir des compétences particulières. Il y aura toujours quelqu'un sur place pour guider un peu, pour expliquer, pour accompagner.
Alors, quand ont lieu les chantiers ?
Alors là, pour le moment, on a organisé 2 journées dans la semaine. Une le mercredi de 14h à 21h et une le samedi de 10h à 18h. Voilà. Donc ça, c'est des journées en fait où il y a toujours quelqu'un, on assure qu'il y a toujours quelqu'un sur place. Si vous passez à l'improviste, il y aura toujours quelqu'un pour accueillir, quoi. Après, ça peut arriver que dans la semaine, on soit là, on va dire, quelques heures, mais ça, on ne peut pas le garantir. Donc,
On ne peut pas le garantir, mais comment on fait pour les contacter ? C'est toujours Flav qui nous parle.
Dans un premier temps, vous pouvez nous envoyer un mail sur l'adresse mail de l'allumette, quoi. Donc l'allumettelefeu@libremail.net. Voilà. Sinon, vous pouvez nous contacter aussi via la page Facebook, sur Instagram, etc. Là, on vous répondra assez rapidement. Mais d'abord, on passe par ce premier contact, en tout cas pour envoyer les infos ensuite, les infos sur les inscriptions, quoi.
Ça s'appelle l'Allumette, un centre social autogéré. Pour l'instant, c'est en chantier. C'est 7 rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu. 7 rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu. Et puis, cet après-midi, puisqu'on est le samedi, j'aurais pas dû le dire pour les auditeurs du direct, mais les mercredis et le samedi, il y a du monde sur place. Et la semaine prochaine, il y aura du monde aussi, du jeudi au dimanche. Pourquoi ? Parce que c'est le week-end de l'Ascension. Comme quoi, la religion, ça a du bon. Qu'est-ce que je viens de dire, moi ? Donc, l'Allumette, lefeu@libremail.com, la page Facebook et compagnie. N'hésitez pas à vous faire connaître. Sinon, mercredi 25 mai 2022 à 18h30, réunion du collectif Stop Amazon 72. Ouais, ça ressemble vraiment à ce dont on a vraiment plus besoin en période de fin du monde. C'est à la salle Guy Moquet, allée André Legendre, complexe sportif Georges Garnier à Alône, mercredi 25 mai 2022 à 18h30. En attendant, nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Et puis, si vous voulez bifurquer, n'hésitez pas à chercher cet appel-là des déserteuses d'AgroParisTech. AgroParisTech, comme ça se prononce, bien sûr, TECK à la fin. L'appel des déserteuses, mais il y en a plein d'autres, des appels. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe aussi chez les soulèvements de la Terre. N'hésitez pas à aller voir, au moins renseignez-vous. Il y a autre chose à vivre que de simplement s'entasser dans des queues pour payer ce qu'on a entassé dans son chariot. Ah ouais, il y a vraiment d'autres choses à vivre. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.